Chapitre 8. Paul n'assista pas longtemps à l'entretien de son frère avec l'intendant. Ce dernier, homme de haute taille, maigre, à l'œil rusé, à la voix mielleuse et éteinte, répondait aux observations de Nicolas Petrovitch par un éternel « assurément, sans aucun doute », tout en s'efforçant de présenter les paysans comme des ivrognes et des voleurs. Le nouveau mode d'administration que l'on venait d'adopter ne fonctionnait encore qu'en criant, comme une roue mal graissée ou un meuble fait avec du bois humide par un ouvrier de village. Cela ne décourageait nullement Kirsanov, mais il soupirait et demeurait souvent pensif. Il comprenait que sans argent les choses ne marcheraient pas, et l'argent lui manquait. Arkad avait dit vrai. Paul Petrovitch était venu plus d'une fois au secours de son frère. Plus d'une fois, le voyant qui se cassait la tête pour trouver un moyen de se tirer d'embarras, il s'était lentement approché d'une fenêtre en marmottant entre ses dents « Mais je puis te donner de l'argent. » Et il lui en donnait effectivement, mais cette fois il était lui-même à sec, et il avait jugé à propos de s'éloigner. Les discussions domestiques lui causaient un insurmontable ennui. D'ailleurs, il lui semblait toujours que Kirsanov, avec tout son zèle et tous ses efforts, s'y prenait mal. Mais il lui eût été impossible de montrer lui-même ce qu'il y avait à faire. « Mon frère manque d'expérience, se disait-il, on le trompe. » Kirsanov avait au contraire une très haute idée de l'esprit pratique de Paul, et toujours il lui demandait conseil. « Je suis un homme faible, irrésolu. J'ai passé ma vie loin du monde, avait-il coutume de dire. Tandis que toi, qui as longtemps vécu dans ce milieu-là, tu connais bien les hommes. Tu as un regard d'aigle. » Au lieu de lui répondre, Paul se détournait. Mais il ne cherchait point à détromper son frère. Laissant Kirsanov dans son cabinet, il suivit le corridor qui traversait la maison, et, arrivé devant une petite porte, il s'arrêta, parut hésiter un moment, se tira la moustache et frappa légèrement. « Qui est là ? » dit Fenichka. « Entrez ?»« C'est moi, » répondit Paul. Et il ouvrit la porte. Fenichka sauta de la chaise sur laquelle elle se tenait assise, son enfant dans les bras. Elle remit celui-ci à une femme qui l'emporta aussitôt et arrangea précipitamment son fichu. « Pardonnez-moi, je vous ai dérangé, » lui dit Paul sans la regarder. « Je voulais simplement vous demander. Je crois que l'on envoie aujourd'hui à la ville. Faites-moi acheter du thé vert. »« Du thé vert, » répéta Fenichka. « Combien en désirez-vous ? » ?»« Une demi-livre me suffira. » « Mais vous avez fait un changement ici, si je ne me trompe. Je parle de ces rideaux. » ajouta-t-il en jetant autour de lui un regard rapide qui effleura aussi la figure de Fenichka, voyant qu'elle ne le comprenait pas. « Oui, Nicolas Petrovitch a bien voulu m'en faire cadeau, mais il y a déjà longtemps qu'ils sont placés. »« C'est qu'il y a longtemps que je ne suis venu vous voir. Vous êtes bien logé maintenant. »« Grâce à Nicolas Petrovitch, » dit Fenichka à voix basse. « Vous êtes mieux ici que dans votre ancien logement au fond de la cour, » lui demanda Paul avec politesse, mais sans rien perdre de son sérieux. « Certainement, beaucoup mieux. Qui habite maintenant les pièces que vous occupiez dans l'aile ? Ce sont les blanchisseuses. » « Oh !» Paul se tut. « Il va s'en aller, » pensa Fenichka, mais il ne s'en allait pas. Mais elle se tenait immobile et remuant légèrement les doigts. « Pourquoi avez-vous fait emporter le petit ? » dit enfin Paul. « J'aime les enfants. Montrez-le-moi. » Fenichka rougit de confusion et de plaisir. Elle avait peur de Paul. Il ne lui parlait que très rarement. « Dunyasha ! » cria-t-elle. « Apportez Mitya !» Fenichka ne tutoyait aucun des gens de la maison. « Au fait, non, attendez. Il faut l'habiller. » Et elle se dirigea vers la pièce voisine. « C'est inutile, » lui dit Paul. « Cela ne sera pas long, » reprit Fenichka, et elle sortit précipitamment. Resté seul, Paul se mit à regarder attentivement autour de lui. La petite chambre dans laquelle il se trouvait était très propre. On y sentait à la fois la camomille, la mélisse, la menthe, et enfin une odeur de vernis, car le plancher était nouvellement peint. Le long des murs se trouvaient des chaises dont le dos était en forme de lyre. Elles avaient été prises en Pologne par le défunt général pendant sa dernière campagne. Au fond de la pièce s'élevait un lit aux rideaux d'indienne, à côté d'un coffre cerclé de fer et dont le dessus était arrondi. Dans l'angle opposé, une lampe en cuivre brûlait devant une grande et sombre image de Saint-Nicolas. Un petit œuf de porcelaine attaché à un ruban rouge, passé autour de l'auréole de l'image, pendait sur la poitrine du saint. Sur l'appui des fenêtres étaient rangés des pots de confiture préparés l'année précédente et fermés avec soin. Fenichka avait écrit de sa main en gros caractères sur le papier qui les couvrait « Casis ». Kersanov préférait ses confitures à tout autre. Du plafond descendait, attaché à une longue corde, une cage dans laquelle se voyait un serin vert à la queue écourtée. L'oiseau criait et sautait sans cesse et imprimait à la cage un balancement saccadé. Des grains de chêne vide tombaient avec un léger bruit sur le plancher. Entre les deux fenêtres, au-dessus d'une commode, pendaient au mur plusieurs photographies de Kersanov dans différentes poses. Elles avaient été faites par un artiste de passage. À côté se voyait également une photographie de Fenichka elle-même. Une figure sans yeux et souriant d'un air contraint s'y détachait sur un fond noir. C'était là tout ce qu'on pouvait distinguer. Au-dessus de ce dernier portrait, le général Yermolov, vêtu d'un manteau tcherkès, fronçait les sourcils en regardant les montagnes qui s'élevaient à l'horizon. Une petite pelote de soie, suspendue au même clou, lui tombait sur le front. Pendant près de 5 minutes, un bruit de pas et des chuchotements se firent entendre dans la chambre voisine. Paul prit sur la commode un livre usé. C'était un volume dépareillé du roman de Massalski, Les Strelitz. Il en tourna quelques pages. La porte s'ouvrit et Fenichka parut, tenant Mitya dans ses bras. L'enfant portait une petite chemise rouge, bordée d'un galon au collet. Sa mère l'avait débarbouillé et peigné. Il respirait avec bruit, se trémoussait et agitait ses bras, comme font les enfants bien portants. Tout petit qu'il était, l'élégance de son vêtement agissait sur lui. Ses traits bouffis exprimaient la satisfaction. Fenichka n'avait pas oublié sa propre chevelure, et elle avait mis une collerette neuve, mais elle eût pu se dispenser de ce soin. Est-il, en effet, rien de plus charmant au monde qu'une mère jeune et belle tenant un enfant dans ses bras? « Quel luron !» dit Paul d'un air bienveillant, et il chatouilla le double menton de Mitya avec l'extrémité de l'ongle pointu qui terminait son index. L'enfant regarda le serin et se mit à rire. « C'est ton oncle !» dit Fenichka en baissant un peu la tête vers lui et le secouant légèrement pendant que Dunyasha mettait furtivement sur la fenêtre une pastille odorante allumée sous laquelle elle plaça une pièce de cuivre. « Combien a-t-il de mois ?» demanda Paul. « 6. Il commence son 7e le 11 de ce mois. »« N'est-ce pas son 8e ?» fait Dostia Nikolaïevna, se hasarda de dire Dunyasha. « Non, son 7e, j'en suis sûr. » L'enfant se mit à rire en regardant le coffre et saisit tout à coup à pleine main le nez et les lèvres de sa mère. « Petit polisson, » dit Fenichka tout en le laissant faire. « Il ressemble à mon frère, » dit Paul. « À qui pourrait-il donc ressembler, si ce n'est à lui ?» pensa Fenichka. « Oui, » continua Paul, comme s'il se fût parlé à lui-même. « La ressemblance est incontestable. » Il se mit à regarder Fenichka d'un air d'attention, presque avec tristesse. « C'est ton oncle, » répéta-t-elle, mais cette fois d'une voix qu'on entendait à peine. « Tiens, Paul, et moi qui te cherchais !» s'écria tout à coup Kersanov. Paul se retourna vivement, et ses traits se contractèrent. Mais la figure de son frère exprimait une telle expression de bonheur et de reconnaissance qu'il lui fut impossible de ne point répondre par un sourire. « Ton enfant est superbe, » dit-il en regardant sa montre. « J'étais entré ici pour parler du thé. » Paul reprit l'air indifférent qui lui était habituel et sortit immédiatement de la chambre. « Il est venu de lui-même ? » demanda Kersanov à Fenichka. « Oui, il a frappé et il est entré. »« Et Arkasha, il n'est plus revenu te voir ?»« Non, peut-être serait-il mieux que je retourne dans mon ancien logement, Nicolas Petrovitch. »« Pourquoi cela ?»« Je crois que cela serait bon pour quelque temps. »« Mais non, » lui répondit Kersanov avec hésitation. « C'est trop tard dans tous les cas. »« Bonjour, mon gros, » continua-t-il avec une subite animation. Et, se rapprochant de l'enfant, il le baisa sur la joue. Puis il se pencha davantage et appuya les lèvres sur la main avec laquelle Fenichka tenait Mitya, et qui, blanche comme du lait, se détachait sur la chemise rouge de l'enfant. « Nicolas Petrovitch, que faites-vous ? » murmura la jeune femme, et elle baissa les yeux. Puis elle les releva peu à peu. L'expression de ses yeux était charmante quand elle vous regardait un peu en dessous, tout en riant d'un air naïf et caressant. Voici comment Kirsanov avait fait la connaissance de Fenichka. 3 ans auparavant, il fut obligé de passer la nuit dans une petite ville de province, assez éloignée de son bien, et il y coucha à l'auberge. La propreté de la chambre qu'on lui donna et la blancheur des draps lui causèrent une agréable surprise. L'hôtesse ne serait-elle pas allemande, se demanda-t-il. Mais il se trompait. C'était une Russe âgée d'une 50aine d'années, habillée avec soin, dont la figure était intelligente et douce, la parole grave. Il causa avec elle en prenant le thé, et elle lui plut beaucoup. Il venait de s'établir dans sa nouvelle maison, et ne voulant plus avoir de serf à son service, il cherchait des serviteurs libres. L'hôtesse, de son côté, se plaignait du petit nombre de voyageurs, de la dureté des temps. Il lui proposa de remplir les fonctions d'économe dans sa maison. Elle y consentit. Son mari était mort depuis longtemps. Il l'avait laissée avec une fille unique, qui était Fenichka. 2 ou 3 semaines après le retour de Kirsanov, Arina Savitchna, c'était le nom de la nouvelle femme de charge, arriva à Marino avec sa fille et s'installa dans l'aile de la maison. Le hasard avait servi Kirsanov à souhait. Arina mit son ménage sur un excellent pied. Personne ne s'occupait alors de Fenichka, qui avait déjà 17 ans accomplis, et on ne la voyait guère. Elle vivait tranquillement comme une souris dans son trou. Le dimanche seulement, il arrivait à Kirsanov de remarquer dans un coin de l'église du village le profil délicat d'un blanc visage de jeune fille. Plus d'une année s'écoula ainsi. Un matin, Arina entra dans le cabinet de Kirsanov et, après avoir fait un profond salut, suivant son habitude, elle lui demanda s'il ne pouvait pas indiquer un moyen de soulager sa fille qui venait d'être atteinte à l'œil par une étincelle partie du four. Kirsanov, comme tous les propriétaires vivant sur leur terre, faisait de la médecine et s'était même procuré une pharmacie homéopathique. Il dit à Arina de lui amener immédiatement Fenichka. Celle-ci, lorsqu'elle sut que le maître la demandait, en fut très effrayée. Pourtant, elle suivit sa mère. Kirsanov la conduisit près d'une fenêtre et lui prit la tête à 2 mains. Ayant bien examiné son œil rouge et enflammé, il prescrivit de le bassiner avec de l'eau, qu'il prépara lui-même. Puis il déchira un morceau de son mouchoir et montra comment il fallait s'y prendre. Lorsqu'il eut achevé, Fenichka voulait se retirer. « Baisse donc la main du maître, petite sotte !» lui dit Arina. Kirsanov ne la laissa pas faire, et, tout confus lui-même, il la baisa sur l'arête du front tandis qu'elle tenait sa tête penchée en avant. L'œil de Fenichka ne tarda pas à guérir, mais l'impression qu'elle avait produite sur Kirsanov ne s'effaça pas aussi promptement. Il lui semblait tenir encore entre ses mains ses cheveux fins et doux. Il croyait toujours voir cette figure blanche et pure, timidement levée en l'air, et ses lèvres entr'ouvertes laissant paraître des dents qui brillaient au soleil comme de petites perles. À partir de ce moment, il se mit à la regarder beaucoup plus attentivement le dimanche à l'église et cherchait à lui parler. Elle répondit d'abord à ses avances avec sauvagerie, et une fois, l'ayant rencontrée à la tombée du jour dans un sentier étroit qui traversait un champ de seigle, elle se jeta pour l'éviter au milieu des grands blés entremêlés de bluets et d'absinthe. Il aperçut sa tête à travers le réseau d'or des épis, derrière lesquels elle l'observait comme une petite bête fauve, et lui cria d'un air de bonne humeur « Bonjour, Fenichka, je ne mords pas !»« Bonjour » murmura-t-elle, sans quitter son abri. Cependant, elle commençait à s'habituer à lui peu à peu, quand sa mère vint à mourir subitement du choléra. Qu'allait-elle devenir ? Elle avait déjà l'esprit d'ordre et le bon sens qui distinguait sa mère, mais elle était si seule, et Kirsanov paraissait si bon et si délicat. Il est inutile de rapporter ce qui suivit. « Tu dis donc que mon frère est entré comme ça, sans façon, chez toi ? » reprit Kirsanov. « Il a frappé et il est entré ? » ?»« Oui. Allons, c'est bien. Laisse-moi bercer un peu Mitya. » Et Kirsanov se mit à lancer son fils presque jusqu'au plafond, à la grande joie du bambin et à la grande inquiétude de sa mère, qui, chaque fois qu'elle le voyait s'élever, tendait les bras vers ses petits pieds nus. Quant à Paul, il avait regagné son cabinet élégant tapissé d'un beau papier, orné d'un trophée d'armes disposé sur un tapis de Perse, avec des meubles en noyer recouverts d'une étoffe vert foncé, une bibliothèque Renaissance en vieux chêne, des statuettes de bronze posées sur une magnifique table à écrire et une cheminée en marbre. Il se jeta sur son divan, mit ses mains sous sa tête et resta immobile, regardant le plafond d'un air presque désespéré. Que ce fût pour cacher dans l'obscurité l'expression qui se lisait sur sa figure ou pour tout autre motif, il se releva presque aussitôt, détacha le lourd rideau qui pendait aux fenêtres et se jeta de nouveau sur le divan. Chapitre 9. Le même jour, Bazarov fit aussi la connaissance de Fenichka. Il se promenait dans le jardin avec Arkade et lui expliquait pourquoi certains arbres et surtout certains jeunes chênes n'avaient point pris. « Vous devriez planter ici plus de peupliers et de sapins, même des tilleuls si vous voulez, pourvu que vous apportiez du terreau. Voilà un bosquet qui a bien pris, » ajouta-t-il, « parce que l'acacia et le seringa sont bons diables. Ils ne demandent pas de soins. Tiens, il y a quelqu'un dans le bosquet. » C'était Fenichka qui se trouvait avec Dunyasha et Mitya. Bazarov s'arrêta et Arkade fit à Fenichka un signe de tête comme à une vieille connaissance. « Qui est-ce ? » demanda Bazarov lorsqu'ils se furent un peu éloignés. « Elle est fort gentille. »« De qui parles-tu ? » ?»« La question est singulière. Il n'y en a qu'une qui soit jolie. » Arkade lui expliqua en peu de mots, et non sans embarras, la position de Fenichka dans la maison. « Bah ! » dit Bazarov. « Il paraît que ton père aime les bons morceaux. Sais-tu bien qu'il me plaît, ton père ? » ?»«
Vrai, c'est un gaillard. »
« Mais il faut que nous fassions connaissance, » ajouta-t-il. Et il se dirigea de nouveau vers le bosquet. « Eugène !» lui cria Arkade avec effroi. « Sois prudent, je t'en supplie. »«
Calme-toi, » répondit Bazarov. « J'ai roulé ma bosse, je connais le monde. »
Et s'étant approché de Fenichka, il ôta sa casquette. « Permettez-moi de me présenter moi-même, » lui dit-il en la saluant poliment. « Je suis un ami d'Arkade Nikolaïtch et un homme paisible. » Fenichka se leva et le regarda sans lui répondre. « Quel bel enfant !» continua Bazarov. « Soyez sans inquiétude, je n'ai porté malheur à personne. Pourquoi ses joues sont-elles si rouges ? Fait-il ses dents ?»«
Oui, » dit Fenichka, « il en a déjà quatre, et ses gencives se gonflent de nouveau.
Montrez-moi ça et n'ayez pas peur, je suis médecin. » Bazarov prit l'enfant dans ses bras, et celui-ci, au grand étonnement de Fenichka et de Dunyasha, ne s'y opposa nullement et ne parut pas effrayé. «
Effectivement, je vois, ça ne sera rien. Il aura une fameuse mâchoire. S'il lui arrivait quelque chose, faites-moi appeler.
Et vous-même, êtes-vous bien portante ?»«
Mais oui, grâce à Dieu.
Il est toujours bon de rendre grâce à Dieu. La santé est le premier des biens. Et vous ?» ajouta Bazarov en s'adressant à Dunyasha. Dunyasha, fille très réservée au logis, et très folâtre dehors, éclata de rire pour toute réponse.
« Allons, c'est bien. Tenez, je vous rends votre gros luron. »
Fenichka reprit l'enfant.
« Comme il a été tranquille dans vos bras, » reprit-elle à voix basse.
« Tous les enfants en font de même lorsque je les prends, » répondit Bazarov. « J'ai un secret pour cela. »«
Les enfants sentent qu'ils les aiment, » dit Dunyasha.
« C'est vrai, » ajouta Fenichka. « Mitya ne se laisse pas porter par tout le monde. » « Aimerait-il à être pris par moi ?» demanda Arkade, qui se tenait à distance, et il entra dans le berceau. Il voulut prendre Mitya, mais celui-ci rejeta la tête en arrière et se mit à crier, à la grande confusion de Fenichka. « Il se laissera faire une autre fois, lorsqu'il sera habitué à moi, » dit Arkade avec bonté. Et les deux amis s'éloignèrent. « Comment m'as-tu dit qu'elle s'appelait ?» demanda Bazarov. « Fenichka, Fedosia, » reprit Arkade.
Et son nom patronymique,
il est toujours bon de savoir cela. Nikolaïevna.
Bene.
Ce qui me plaît en elle, c'est qu'elle ne paraît pas trop embarrassée. Il y a des gens qui le trouveraient mauvais.
C'est absurde. Pourquoi serait-elle embarrassée? Elle est mère, donc elle a raison.
Sans doute, reprit Arcade,
mais mon père, lui aussi, est dans son droit.
Ce n'est pas mon avis.
Il paraît que tu ne tiens pas à partager l'héritage.
Comment n'as-tu pas honte de me supposer une pareille pensée? S'écria Arcade avec feu. Ce n'est nullement à ce point de vue que je me place pour blâmer mon père. Je trouve qu'il aurait dû l'épouser.
Eh eh, dit Bazarov d'un ton calme. Quelle grandeur d'âme!
Tu prêtes encore une signification au mariage. Je ne te croyais pas de cette force-là.
Les deux amis firent quelques pas sans se parler.
J'ai visité attentivement vos biens, reprit Bazarov. Le bétail est en mauvais état et les chevaux ne valent pas mieux. J'en dirais autant des bâtisses.
Et les journaliers me semblent de francs paresseux.
Quant à votre intendant, c'est un imbécile ou un coquin. Je n'ai pas encore d'opinion arrêtée sur son compte.
Tu es bien sévère aujourd'hui, Eugène.
Et vos braves paysans entortilleront ton père, j'en suis certain. Tu connais le dicton, le paysan russe est bête, mais il ne ferait qu'une bouchée du bon Dieu.
Je commence à croire que mon oncle a raison, lui dit Arcade. Tu as décidément mauvaise opinion des Russes.
La belle affaire. Le seul mérite du Russe, c'est qu'il a une chienne d'opinion de lui-même. Au reste, cela importe fort peu. Ce qui importe, c'est de savoir que 2 et 2 font 4. Tout le reste ne signifie absolument rien.
Comment? La nature elle-même ne signifie absolument rien?
Reprit Arcade, en jetant un regard rêveur sur les champs bigarrés que la lumière du soleil à son couchant éclairait d'une molle clarté.
La nature aussi ne signifie absolument rien, dans le sens que tu lui prêtes en ce moment.
La nature n'est pas un temple, mais un atelier, et l'homme y est un ouvrier.
En ce moment, les lentes modulations d'un violoncelle frappèrent les oreilles des promeneurs. Ces sons venaient de la maison. Le musicien jouait avec sentiment, quoique d'une main peu exercée, l'attente de Schubert, et cette suave mélodie se répandait comme l'odeur du miel dans les airs.
« Qu'est-ce que j'entends là ? » dit Bazarov d'un air surpris.
« C'est mon père. »
« Ton père joue du violoncelle ? » ?»«
Oui. »
« Mais quel âge a-t-il donc ? » ?»«
44 ans. »
Bazarov partit d'un éclat de rire.
« Pourquoi ris-tu ? » ?»«
Comment ? Un homme de 44 ans, un pater familias, joue dans le district de X du violoncelle ?»
Bazarov se mit à rire de plus belle.
Mais Arcade, quel que fût le respect qu'il portât à son maître, ne se sentit pas la moindre envie de l'imiter cette fois.
Chapitre 10. Près de 2 semaines se passèrent ainsi. La vie des habitants de Marino s'écoulait uniformément. Arcade faisait le sybarite et Bazarov travaillait. On s'était habitué à lui, à son sans-façon, à sa parole brève et brusque. Fenichka, surtout, s'était tellement familiarisée avec lui qu'une nuit, elle le fit réveiller. Mitya avait été pris de convulsions. Bazarov vint, resta près de 2 heures, tantôt riant, tantôt bâillant, et soulagea l'enfant. Mais d'un autre côté, Paul se mit à détester Bazarov de toutes les forces de son âme. Il le considérait comme un homme insolent, effronté, cynique, un vrai plébéien, qui avait peu d'estime pour lui, Paul Kirsanov, et allait même peut-être jusqu'à le mépriser. Son frère Nicolas craignait un peu le jeune nihiliste et doutait qu'il exerçât une heureuse influence sur Arcade. Mais il l'écoutait avec plaisir et assistait volontiers à ses expériences de physique et de chimie. Bazarov avait apporté avec lui un microscope et passait des heures entières l'œil sur cet instrument. Les domestiques s'étaient aussi habitués à Bazarov, quoiqu'il les traitât cavalièrement. Ils voyaient plutôt en lui un homme de leur bord qu'un maître. Dunyasha ricanait volontiers avec Bazarov et lui jetait à la dérobée des regards significatifs lorsqu'elle passait en trottinant devant lui comme une petite caille. Pierre, homme borné et pétri d'amour-propre, au front perpétuellement soucieux, dont les mérites étaient une attitude polie, savoir épeler et brosser souvent sa redingote, se déridait et souriait même dès que Bazarov lui accordait la moindre attention. Les petits domestiques suivaient le docteur comme de jeunes chiens. Le vieux Prokofitch était le seul qui ne l'aima point.
Il le servait à table d'un air maussade, l'appelait écarisseur, va-nu-pied, et disait qu'avec ses longs favoris, Bazarov ressemblait à un cochon dans un buisson. Prokofitch n'était pas moins aristocrate en son genre que Paul Petrovitch lui-même. On était au commencement de juin, le plus beau mois de l'année. Le temps était magnifique. Il est vrai que le choléra approchait, mais les habitants du gouvernement de X ne le craignaient pas beaucoup. Bazarov se levait de grand matin et se rendait à deux ou trois verstes de la maison, non point pour se promener, il ne pouvait souffrir les promenades, mais pour ramasser des plantes et des insectes. Arkad l'accompagnait quelquefois. En revenant, il arrivait assez souvent aux deux amis de disputer, et Arkad était ordinairement vaincu, quoiqu'il parlât beaucoup plus que son compagnon. Un jour qu'il tardait à revenir, Kirsanov alla au-devant d'eux dans le jardin. Arrivé près du bosquet, il entendit les pas précipités et la voix des jeunes gens. Il passait de l'autre côté du bosquet et ne pouvait le voir. « Tu ne connais pas mon père, » dit Arkad. Kirsanov resta immobile. « Ton père est un bon enfant, » répondit Bazarov. « Mais il n'est plus bon qu'à mettre sous la remise. Il a pris sa retraite, il a fini sa chanson. » Kirsanov prêta l'oreille. Arkad se taisait. L'homme, retraité, resta encore quelques moments dans sa cachette. Puis il en sortit avec précaution et regagna le logis. L'autre jour, je regarde ce qu'il fait. Il lisait Pouchkine, poursuivit Bazarov. Fais-lui comprendre, je t'en prie, que c'est absurde. Il n'est plus un jouvenceau et devrait jeter aux orties tout ce fatras. Qui s'intéresse de nos jours au romantisme, à la poésie? Donne-lui quelques bons livres à lire. Que pourrait-on lui donner? Demanda Arkad. On pourrait commencer par le Stoff und Kraft de Buchner, par exemple. J'y pensais, reprit Arkad. Ce livre est facile à comprendre. Nous voilà jugés, dit Kirsanov le même soir à son frère, qu'il était venu trouver dans son cabinet. Nous ne sommes plus bons qu'à être mis sous la remise. Nous avons fini notre chanson. Après tout, Bazarov a peut-être raison. Ce qui me chagrine dans tout ceci, c'est que j'espérais précisément me rapprocher étroitement et amicalement d'Arkad, et voilà que je me trouve arriéré. Il m'a devancé et nous ne pouvons plus nous comprendre. Comment t'aurait-il devancé? Et qu'est-ce qui le distingue tant de nous autres? S'écria Paul avec impatience. C'est ce monsieur, ce nihiliste, qui lui a fourré tout cela dans la tête. Je ne peux pas souffrir ce carabin. C'est un vrai charlatan, à mon avis. Je suis sûr que malgré toutes ces grenouilles, il n'en sait pas long, même en physique. Non, mon frère, je crois que tu te trompes, lui répondit Kirsanov. Il est intelligent et instruit. Et quel amour-propre! C'est vraiment révoltant, continua Paul. Il ne manque pas d'amour-propre, j'en conviens, reprit son frère. C'est inévitable, à ce qu'il paraît. Mais voici une chose qui me passe. Je fais tout ce que je peux pour marcher avec le siècle. J'ai fait une position à mes paysans et établi une ferme sur mes terres, ce qui m'a valu d'être appelé rouge dans tout le gouvernement. Je lis, j'étudie et fais des efforts pour être au niveau des besoins du pays, et ils disent que ma chanson est finie. Après tout, il est bien possible qu'ils aient raison. Comment cela? Écoute, aujourd'hui j'étais assis à lire Pouchkine. Je venais de commencer les Bohémiens. Lorsque tout à coup Arkad s'approche de moi en silence avec une sorte de compassion caressante. Il me prit doucement mon livre, comme il l'eût fait à un enfant, et le remplaça par un autre, un livre allemand. Puis il sourit et se retira en emportant Pouchkine. « Vraiment? Et quel est le livre qu'il t'a donné? » « Le voici. » Kirsanov sortit de la poche de derrière de sa redingote la 9e édition de la fameuse brochure de Buchner. Paul en tourna quelques pages. Arkad s'occupe de ton éducation, dit-il. As-tu essayé de lire cela? Oui. Eh bien? Il faut que je sois bête ou que l'auteur n'ait pas le sens commun. Mais c'est sans doute moi qui suis bête. Tu n'as pas oublié ton allemand? Demanda Paul. Non. Paul tourna le livre dans ses mains en regardant son frère à la dérobée. Ils se taisaient l'un et l'autre. À propos, dit Kirsanov, qui voulait changer de conversation, j'ai reçu une lettre de Kolyazine. De Matvey Ilitch? Oui,
Il est arrivé à X pour passer l'inspection du gouvernement. C'est maintenant un personnage. Il me dit qu'en sa qualité de parent, il désire beaucoup nous voir et m'invite à me rendre à la ville avec toi et Arcade. « Iras-tu ? » demanda Paul. « Non. Et toi ? » ?»«
Moi non plus. Je ne vois pas la nécessité de me traîner à 50 verstes pour ses beaux yeux.
Mathieu veut se montrer à nous dans toute sa gloire.
Que le diable l'emporte. Il devrait se contenter de l'encens administratif.
Le voilà conseiller intime.
La belle affaire. Si j'avais continué à servir, à porter le collier de misère, je serais maintenant général aide-de-camp. D'ailleurs, nous sommes sous la remise.
Oui, mon frère, il est temps, à ce qu'il paraît, de nous commander des cercueils et de nous croiser les bras sur la poitrine, dit Kersanov avec un soupir.
Quant à moi, je ne me rendrai pas si facilement, reprit Paul. J'aurai encore une bataille avec ce beau docteur, tu peux y compter.
La bataille eut lieu le soir même, pendant que l'on prenait le thé. Paul était descendu dans le salon, déjà tout irrité et prêt au combat. Il n'attendait qu'un prétexte pour se jeter sur l'ennemi. Mais l'attente fut longue. Bazarov parlait habituellement peu en présence des deux vieux, comme il nommait les deux frères. D'ailleurs, il se sentait ce soir-là mal disposé et avalait une tasse après l'autre dans le plus complet silence. Paul était dévoré d'impatience. Il finit cependant par trouver l'occasion qu'il cherchait. On se mit à causer d'un propriétaire du voisinage. « C'est un cornichon, un méchant aristocrate, » dit paisiblement Bazarov, qu'il avait connu à Pétersbourg. « Permettez-moi de vous demander, » lui dit Paul, dont les lèvres tremblaient, « si les mots de cornichon et d'aristocrate sont, suivant vous, synonymes. »
« J'ai dit « méchant aristocrate », répondit Bazarov en aspirant négligemment son thé.
« C'est vrai, mais je suppose que vous mettez les aristocrates et les méchants aristocrates sur le même pied. Je crois devoir vous prévenir que telle n'est pas mon opinion. J'ose dire que je suis généralement reconnu pour un homme libéral et aimant le progrès. Mais c'est précisément pour cela que j'estime les aristocrates, les véritables aristocrates. Rappelez-vous, mon cher monsieur, » Bazarov leva les yeux sur Paul. « Rappelez-vous, mon cher monsieur, » répéta-t-il avec hauteur, « les aristocrates anglais. Ils ne cèdent pas un iota de leurs droits et n'en respectent pas moins les droits des autres. Ils exigent ce qui est leur dû et ne manquent jamais eux-mêmes à ce qu'ils doivent aux autres. L'aristocratie a donné la liberté à l'Angleterre et elle en est le plus ferme appui. »
« C'est une vieille chanson que nous avons souvent entendue, » répondit Bazarov.
« Mais que prétendez-vous prouver par cela ?»«
Je prétends prouver par ça, mon cher monsieur. »
Paul, lorsqu'il se mettait en colère, employait certaines locutions familières, quoiqu'il sût fort bien qu'elles étaient défectueuses. Cette habitude remonte au règne de l'empereur Alexandre. Les grands seigneurs de l'époque, lorsqu'il leur arrivait de parler leur langue maternelle, affectaient une prononciation vicieuse, comme pour donner à entendre qu'en leur qualité de grand seigneur, il leur était permis de dédaigner les règles de la grammaire imposées aux écoliers. Je prétends prouver par ça que sans la conscience de sa propre dignité, sans le respect de soi-même, et ses sentiments sont familiers à l'aristocratie, il ne saurait exister de solide fondement pour le bien public, l'édifice public. L'individu, la personnalité, mon cher monsieur, voilà l'essentiel. La personnalité humaine doit être résistante comme un roc, car tout repose sur cette base. Je sais fort bien que vous trouvez risibles mes manières, mon costume, jusqu'à mes habitudes de propreté. Mais tout cela découle du respect de soi-même. Du sentiment du devoir, oui, oui, monsieur, du devoir. J'habite le fond de la province, mais je ne m'abandonne pas pour cela, je respecte l'homme en ma personne. » « Permettez, Paul Petrovitch, lui répondit Bazarov, vous dites que vous vous respectez, et vous restez assis les bras croisés. Quel avantage cela procure-t-il au bien public? Vous ne vous respecteriez pas, que vous n'agiriez pas autrement. » Paul Petrovitch pâlit. « C'est une toute autre question, reprit-il. Il ne me convient nullement de vous expliquer maintenant pourquoi je reste les bras croisés, comme vous voulez bien le dire. »
Je voulais me borner à vous rappeler que l'aristocratie repose sur un principe et que les hommes immoraux ou sans aucune valeur sont les seuls qui puissent vivre de nos jours sans principe. Je le disais à Arcade le lendemain de son arrivée et je ne fais que vous le répéter aujourd'hui. N'est-ce pas vrai, Nicolas Petrovitch ? Kirsanov fit de la tête un signe d'assentiment. Aristocratie, libéralisme, principe, progrès, répétait en attendant Bazarov. Que de mots étrangers à notre langue, et parfaitement inutiles. Un vrai russe n'en voudrait pas pour rien. Que lui faut-il donc, suivant vous ? À vous entendre, nous sommes en dehors de l'humanité, en dehors de ses lois. C'est un peu fort. La logique de l'histoire exige. Qu'avons-nous besoin de cette logique-là ? Nous pouvons fort bien nous en passer. Comment ? Ah, voici. Je pense que vous vous passez fort bien de logique pour porter un morceau de pain à votre bouche lorsque vous avez faim. À quoi bon toutes ces abstractions ? Paul leva les mains. Je ne comprends plus du tout, dit-il. Vous insultez le peuple russe. Je ne comprends pas que l'on puisse ne pas reconnaître des principes, des règles. Qu'est-ce qui vous dirige donc dans la vie ? Je vous ai déjà dit, mon oncle, reprit Arcade, que nous ne reconnaissons aucune autorité. Nous agissons en vue de ce que nous reconnaissons pour utile, ajouta Bazarov. Aujourd'hui, il nous paraît utile de nier et nous nions. Tout ? Absolument tout. Comment ? Non seulement l'art, la poésie, mais encore, j'hésite à le dire, tout, répéta Bazarov avec une inexprimable tranquillité. Paul le regarda fixement. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Arcade rougit de plaisir. « Permettez, dit Kirsanov, vous niez tout, ou, pour parler plus exactement, vous détruisez tout. Cependant, il faut aussi rebâtir. Cela ne nous regarde pas. Il faut avant tout déblayer la place. La condition actuelle du peuple l'exige, ajouta Arcade d'un air grave. Nous devons remplir ce devoir. Nous n'avons pas le droit de nous abandonner aux satisfactions de l'égoïsme personnel. » Cette dernière phrase déplut à Bazarov. Elle sentait la philosophie, c'est-à-dire le romantisme, car il donnait ce nom aussi à la philosophie. Mais il ne jugea pas à propos de contredire son jeune élève. « Non, non !» s'écria Paul dans un élan subi. « Je ne veux pas croire que vous autres, messieurs, vous ayez une juste opinion du peuple russe. Que vous exprimiez ce qu'il demande, ses vœux secrets. Non, le peuple russe n'est pas tel que vous le représentez. Il a un saint respect pour la tradition. Il est patriarcal. Il ne peut vivre sans foi. » Je n'essaierai pas de vous contredire, reprit Bazarov. Je suis même prêt à reconnaître que vous avez raison cette fois. Mais si j'ai raison, mais cela ne prouve absolument rien. Absolument rien, répéta Arcade, avec l'assurance d'un joueur d'échecs expérimenté qui, ayant prévu un coup que son adversaire croit dangereux, n'en paraît nullement déconcerté. Comment cela ne prouve-t-il rien ? Dit Paul avec stupéfaction. Vous vous séparez donc de votre peuple ? Et quand cela serait ? Le peuple croit que lorsqu'il tonne, le prophète Élie se promène en char dans le ciel. Eh bien, faut-il que je partage son opinion à cet égard ? Vous croyez me confondre en me disant que le peuple est russe ? Et moi, ne le suis-je pas aussi ? Non. Après tout ce que vous venez de dire, vous n'êtes point russe. Je ne peux plus vous reconnaître pour tel. Mon grand-père conduisait la charrue, répondit Bazarov avec un orgueil superbe. Demandez au premier venu de vos paysans, dans lequel de nous deux, de vous ou de moi, il reconnaît plus volontiers son concitoyen. Vous ne savez même pas parler avec lui. Et vous, qui savez parler avec lui, vous le méprisez. Pourquoi pas, s'il le mérite ? Vous blâmez la direction de mes idées, mais qui vous dit qu'elle est accidentelle ? Qu'elle n'est point déterminée par l'esprit général de ce peuple que vous défendez si bien ? Allons donc, les nihilistes sont bien nécessaires. Qu'ils le soient ou non, ce n'est pas à nous à le décider. Ne vous supposez-vous pas aussi bon à quelque chose ? Messieurs, messieurs, point de personnalité ! S'écria Kirsanov en se levant. Paul sourit, et posant la main sur l'épaule de son frère, il le força à se rasseoir. « Sois tranquille, lui dit-il, je ne m'oublierai pas. précisément en raison de ce sentiment de dignité que persifle si vivement monsieur. « Monsieur le docteur, permettez, » continua-t-il en s'adressant de nouveau à Bazarov. « Vous croyez peut-être que votre manière de voir est nouvelle. C'est une erreur. Le matérialisme que vous professez a déjà été en honneur plus d'une fois, et s'est toujours montré insuffisant. » « Encore un mot étranger, » reprit Bazarov. Il commençait à devenir aigre, et sa figure avait pris une teinte cuivrée, peu agréable à voir. « D'abord, je vous dirai que nous ne prêchons pas. Ce n'est pas dans nos habitudes. Que faites-vous donc ? Je vais vous le dire. Nous avons commencé par appeler l'attention sur les employés concussionnaires, sur le manque de route, sur l'absence de commerce, sur la manière dont on rend la justice. Oui, oui, vous êtes des dénonciateurs, des divulgateurs. C'est le nom que l'on vous donne, si je ne me trompe. Je suis d'accord avec vous sur un grand nombre de vos critiques, mais... Puis nous n'avons pas tardé à reconnaître qu'il ne suffisait pas de bavarder sur les plaies qui nous rongent, que cela n'aboutissait uniquement qu'à la platitude et au doctrinarisme. Nous nous aperçûmes que nos hommes avancés, nos divulgateurs, ne valaient absolument rien, que nous nous occupions de sottises, telles que l'art pour l'art, la puissance créatrice qui s'ignore elle-même, le parlementarisme, la nécessité des avocats et mille autres sornettes. Tandis qu'il faudrait penser à notre pain quotidien, tandis que la superstition la plus crasse nous étouffe, tandis que toutes nos sociétés par action font banqueroute, et cela uniquement parce qu'il y a disette d'honnêtes gens, tandis que la liberté des serfs elles-mêmes, dont s'occupe tant le gouvernement, ne produira peut-être rien de bon, parce que notre paysan est prêt à se voler lui-même pour aller boire des drogues empoisonnées dans les cabarets. « Bien, reprit Paul, très bien. Vous avez découvert tout cela, et ne vous en êtes pas moins décidé à ne rien entreprendre de sérieux. »« Oui, nous y sommes décidés, » répéta Bazarov d'un ton brusque. Il se reprocha tout à coup d'en avoir tant dit devant ce gentilhomme. « Et vous vous bornez à injurier ?»« Nous injurions au besoin. Et c'est là ce qu'on nomme nihilisme ?»« C'est ce que l'on nomme nihilisme, » répéta Bazarov, mais cette fois d'un ton particulièrement provoquant. Paul cligna un peu les yeux. « À la bonne heure, » dit-il avec un calme forcé, qui avait quelque chose d'étrange. « Le nihilisme doit remédier à tout, et vous êtes nos sauveurs et nos héros. À merveille. Mais pourquoi insultez-vous tant les autres, ceux que vous appelez les bavards ? Ne bavardez-vous pas comme eux ? Allons donc. Si nous avons un reproche à nous faire, ce n'est pas celui-là. » répondit Bazarov entre ses dents. Comment ? Est-ce que vous auriez la prétention d'agir, ou seulement de vous préparer à l'action ? Bazarov resta silencieux. Paul tressaillit, mais il se calma presque aussitôt. Agir, détruire, reprit-il. Mais comment peut-on détruire sans savoir même pourquoi on détruit ? Nous détruisons parce que nous sommes une force, dit gravement Arcade. Paul jeta les yeux sur son neveu et sourit. « Oui, la force n'a point de compte à rendre, » ajouta Arcade en se redressant. « Le malheureux !» s'écria Paul, hors d'état de se contenir plus longtemps. « Si tu voulais te rendre compte seulement de ce que tu soutiens en Russie avec ta ridicule sentence, c'est vraiment par trop fort. Il faudrait avoir la patience d'un ange pour supporter tout cela. La force !» Le sauvage Kalmouk et le Mongol n'en manquent pas non plus. Mais à quoi peut-elle nous servir ? Ce qui doit nous être précieux, c'est la civilisation. Oui, oui, mes chers messieurs, les fruits de la civilisation. Et ne me dites pas que ces fruits sont insignifiants. Le dernier barbouilleur d'enseigne, le misérable joueur de polka et de valse, auquel on donne 5 kopecks par soirée, sont plus utiles que vous, parce qu'ils sont des représentants de la civilisation et non point de la force grossière des Mongols. Vous vous croyez des hommes avancés, et votre place serait dans une kibitka de Kalmouk. La force. Rappelez-vous donc, messieurs les forts, que vous êtes une douzaine en tout, tandis que les autres se comptent par myriades, par millions, et ne vous permettront pas de fouler aux pieds leurs plus saintes croyances. Ils vous écraseront. S'ils nous écrasent, nous y passerons, reprit Bazarov. « Mais vous êtes loin du compte. Nous sommes plus nombreux que vous ne le supposez. Comment ? Vous croyez sérieusement que vous pouvez mettre à la raison le peuple entier ?
Vous devez savoir qu'une chandelle d'un sou a suffi pour brûler toute la ville de Moscou, répondit Bazarov.
C'est ça, c'est ça. D'abord une fierté presque satanique, ensuite l'ironie de mauvais goût. Voilà ce qui entraîne la jeunesse. Voilà ce qui séduit les cœurs inexpérimentés de ces gamins. Tenez, en voici un qui se tient à vos côtés. Il est presque en extase devant vous.
Arkade se détourna et fronça les sourcils.
Et cette contagion s'est déjà étendue au loin. On m'assure qu'à Rome, nos peintres ne mettent plus le pied au Vatican. Ils traitent Raphaël d'imbécile parce qu'il fait autorité comme ils le disent. Et ceux qui s'expriment ainsi sont l'impuissance en personne. Leur imagination ne dépasse pas la jeune fille à la fontaine. Ils ont beau faire, leurs efforts ne vont pas au-delà. Et notez que cette peinture même est détestable. Cependant, vous avez ces gaillards-là en grande estime, n'est-ce pas ?
Quant à moi, répondit Bazarov, je ne donnerai pas 2 sous de Raphaël, et je pense qu'ils ne valent pas mieux que lui.
Bravo, bravo ! Entends-tu, Arkade ? Voilà comment les jeunes gens contemporains doivent s'exprimer.
Oh, je comprends en merveille qu'ils se pressent sur vos pas.
Autrefois, ils sentaient la nécessité de s'instruire. Ne se souciant pas de passer pour des ignorants, ils étaient bien forcés de travailler. Maintenant, ils peuvent se contenter de dire « Tout n'est que fatras et sottises dans ce monde, et le tour est joué. » Ils ont bien raison de se réjouir. Jadis, ils n'étaient que des nigauds, les voilà d'emblée à 7 heures transformés en nihilistes.
Il me semble que vous oubliez le sentiment de dignité personnelle dont vous faites tant de cas, répondit flegmatiquement Bazarov, tandis que l'indignation colorait le front et animait les yeux de son ami.
Notre discussion nous a entraînés beaucoup trop loin, et je crois que nous ferions bien d'en rester là.
Je serai d'accord avec vous, ajouta-t-il en se levant, lorsque vous m'aurez indiqué dans notre société une seule institution, pas davantage, qui ne mérite pas d'être complètement et impitoyablement abolie.
Je pourrais vous en citer 1 million, s'écria Paul. 1 million! Tenez, la commune, par exemple.
Un froid sourire contracta les lèvres de Bazarov.
Quant à la commune, répondit-il, vous feriez mieux d'en parler avec votre frère.
Je suppose qu'il doit savoir à quoi s'en tenir maintenant sur la commune, la solidarité des paysans entre eux, leur tempérance, et beaucoup d'autres plaisanteries du même genre.
Et la famille, telle que nous la trouvons chez nos cultivateurs, s'écria Paul Petrovitch.
C'est encore là une question que vous feriez bien, à mon avis, de ne point approfondir.
Suivez mon conseil, Paul Petrovitch, donnez-vous 2 ou 3 jours de réflexion. Vous ne trouverez rien sur le moment. Passez en revue toutes nos classes l'une après l'autre et réfléchissez-y bien.
Pendant ce temps, Arkade et moi, nous tournerons tout en dérision, reprit Paul Petrovitch.
Non, nous nous occuperons à disséquer les grenouilles. Allons, Arkade. Au revoir, messieurs. Les 2 amis sortirent. Paul et son frère restèrent seuls et se bornèrent, durant les premiers instants, à échanger en silence quelques regards.
Voilà donc, dit enfin Paul, où en est notre jeunesse. Voilà nos successeurs.
Nos successeurs, répéta Kirsanov avec un profond soupir. Il était demeuré tout le temps de cette discussion comme sur des charbons ardents, et s'était contenté de jeter de temps en temps un coup d'œil mélancolique sur Arkade.
Sais-tu bien, mon frère, le souvenir que cela me rappelle ?
Je me disputais un soir avec feu notre mère. Elle criait et ne voulait pas m'écouter. Je finis par lui dire « Vous ne pouvez pas comprendre, nous appartenons à 2 générations différentes. » Ces paroles la blessèrent extrêmement. Mais je me dis, qu'y faire ? La pilule est amère, il faut pourtant l'avaler. À notre tour maintenant, nos successeurs peuvent nous dire aussi « Vous n'êtes point de notre génération, avalez la pilule. »
« Tu es par trop modeste et bienveillant, » répondit Paul. « Je suis persuadé au contraire que nous sommes beaucoup plus dans le vrai que tous ces petits messieurs.
quoique notre langue soit peut-être un peu vieillie, et que nous n'ayons pas leur outrecuidance. Avec cela, ils seront si affectés qu'on leur demande à table « Voulez-vous du vin blanc ou du rouge ?» Ils vous répondent « J'ai la constante habitude de préférer le rouge. » Et cela d'une voix de basse et d'un air si ridiculement important. On dirait qu'ils posent devant tout l'univers. « Vous ne souhaitez plus de thé ?» dit Fenichka en entr'ouvrant la porte. Elle avait craint d'entrer dans le salon pendant la discussion. « Non, tu peux faire emporter le samovar, » répondit Kirsanov, et il se leva pour aller au-devant d'elle. Paul lui dit brusquement bonsoir, et il se dirigea vers son cabinet.